Voilà, donc je vais maintenant, après ce petit passage sur François Dupuis, passer la parole effectivement à Jean-Paul Boucher et Catherine Schlander. Chacun aura un petit moment pour exposer son sujet, un quart d'heure, et plus d'ailleurs, si je sais. L'important, c'est qu'on ait le temps de discuter et de terminer un petit peu actuellement à 22h, voire avant si vous avez des contraintes, évidemment. Donc je vais demander d'abord à Jean-Paul Boucher de prendre la parole. Je crois qu'il a effectivement un jugement un peu nuancé par rapport à tout ce que j'ai raconté. En tout cas, il a de l'expérience, de l'analyse des réseaux et je lui souhaite très volontiers la parole.
On a envie d'être mieux reconnu dans ce que l'on fait. Ça, c'est un premier point extrêmement important. c'est on voudrait faire notre travail correctement, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Et on considère que les conditions d'exercice de notre responsabilité professionnelle ne sont pas bien réunies aujourd'hui. Ça, c'est un deuxième message extrêmement fort. Donc, vous avez bien compris déjà sur ces deux premiers messages, et je les ai volontairement hiérarchisés, c'était pas pour nous dire je suis très mal, je suis en grande souffrance, tout va mal. Non, c'est pas ça qu'on a entendu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je serai, j'irai extrêmement lucide là-dessus, j'ai un collègue qui est avec moi, on a préparé, on a longtemps travaillé avec Bernard, Thierry Lacombe de l'Observatoire des cadres, sur la préparation de ce colloque du 2 décembre l'année dernière, et on l'a fait volontairement en très grande proximité avec le cadre de France Télécom. Et avec eux, on a fait tout un travail de remontée de l'arbre des causes pour savoir mais qu'est-ce qui s'était passé, effectivement, pour qu'on en arrive à une situation comme celle-ci. Bien. Je peux vous garantir que dans tout ce travail de préparation, on n'a pas entendu non plus, je dirais, que ce discours autour des cadres en souffrance, des cadres qui vont mal. C'est pour ça que je pense que c'est important de nuancer tout ça, et puisque, je dirais, dans l'introduction des cas, vous êtes en train de dire, vous avez fait ça sur trois séances, hein, et vous avez fait venir effectivement Christophe Delour. Moi, je pense qu'effectivement, ce discours, qui est un discours en tant qu'expert, hein, mais c'est un discours que j'ai qualifié d'ailleurs dans l'ouvrage écrit avec Francis Gainsbourger, c'est le travail vu d'en haut, comme la terre vue du ciel, où le travail vu du dehors n'est pas le travail vu du dedans. Parce que quand on commence à regarder précisément le travail vu du dedans, certes, il y a des fragilités humaines, ça existe, mais il faut d'abord interroger les systèmes qui ont conduit à des situations comme celle-ci. Et dans le cas de France Télécom, il y a quand même deux choses absolument extraordinaires, que vous connaissez tous. Lorsque le numéro 2 est arrivé, Benet, il est arrivé avec des méthodes, on va dire, de management et des outils de gestion dans sa valise, qu'il avait déjà utilisé dans de très nombreuses entreprises, dans un très grand cabinet de conseil dont je ne citerai pas le nom, mais en disant, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas sur France Télécom. Bien. Il y a deux outils de gestion essentiels qui ont été utilisés dans ce cadre-là. Il y en a un premier qui s'appelle le time to move. Donc je suppose que vous avez entendu parler. Il est temps de changer. Donc c'est bien la question des mobilités. Et des mobilités organisées comme un process extrêmement industriel avec très très peu d'accompagnement du changement ou d'accompagnement de ces mobilités. Premier outil de gestion. Le deuxième, encore plus surprenant, puisque c'est verbalisé dans un comité de direction, la mise en inconscient. Les termes mêmes sont violents, hein. La mise en inconfort. Autrement dit, lorsqu'on a épuisé tous les leviers de retraite anticipée, de départ négocié, etc., et qu'on a encore un volant de sur-effectif, hein, il va falloir effectivement organiser du time to move et de la mise en inconfort de telle sorte que de toute façon il est arrivé. Bien, je n'en dis pas plus, je dis simplement quand on a remonté effectivement toute cette filière dans le travail de préparation, on peut comprendre effectivement qu'il y a un profond malaise de la part effectivement des cadres et des managers. Cela étant, on a rencontré également à cette occasion des gens qui nous ont dit comment aujourd'hui créer les conditions finalement d'un mieux vivre ensemble au travail, comment recréer les conditions d'un mieux travailler, et c'est un travail qu'on va continuer nous en tous les cas en tant qu'acteur syndical à réaliser en appui, mais on est bien dans un appui quelque part permettant de faire de sorte que les salariés, les cadres et les managers en particulier, enfin ceux avec lesquels on va travailler, redeviennent quelque part acteurs de l'avenir professionnel, redeviennent quelque part acteurs d'organisation du travail, donc dit autrement, reprendre quelque part du pouvoir d'organisation. Donc je suis plutôt sur un discours positif, malgré effectivement tout ce que j'ai dit auparavant, mais ça me semble effectivement important. Alors juste un petit clin d'œil effectivement sur ce livre, moi j'ai accepté de le post-facer, pas simplement par sympathie ou par amitié avec Francis Gainsbourger, je pense que les thèses, et je vous invite à lire ce livre, qui sont effectivement défendues, sont extrêmement justes et repartent d'une analyse extrêmement fine en très très grande proximité avec des réalités professionnelles ou avec des réalités opérationnelles. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre, et d'ailleurs le titre, alors, puisque c'était cité, l'éditeur ne rêve qu'une seule chose, c'est que le titre soit le travail qui tue. On a été extrêmement ferme sur cet aspect-là, il y a eu de nombreux allers-retours, je peux vous le garantir, et on a dit c'est hors de question que ce soit ce titre-là, parce que c'est l'antithèse de tout ce qu'on a voulu démontrer d'ailleurs dans le livre. Ce qu'on a voulu démontrer dans le livre, c'est qu'est-ce qui tue le travail, et qu'est-ce qui empêche de travailler, et qu'est-ce qui empêche de bien travailler. Et c'est c'est pas du tout la même chose. Et là, on dit deux choses essentiellement. On dit la surgestion. La surgestion, c'est-à-dire, on a rajouté des outils et des instruments de gestion qui n'ont fait que accroître quelque part la distance entre les salariés et leur direction et leur entreprise. C'est vrai aussi pour les salariés. Et ça, c'est un discours qu'on a très très souvent entendu, au même titre qu'on a entendu des besoins de reconnaissance. On a très très souvent entendu, mais on est très très loin d'un certain nombre de processus de prise de décision. Donc il y a une vraie césure qui a été exprimée entre les cadres, les managers et puis les dirigeants. Ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement beaucoup ressenti. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce travail d'analyse un petit peu plus fine là aussi sur ces questions des outils de gestion? Et parce qu'il nous semble, je ne parle pas de France Télécom, hein, mais il nous semble qu'effectivement, cette accumulation dans le temps de ces outils qui ont conduit à beaucoup de reporting, alors j'ai rien contre le reporting, sauf que quand les cadres nous disent je passe pratiquement maintenant plus du tiers, voire la moitié de mon temps, à remplir les tables de bord, ils ont quand même le sentiment de ne pas faire vraiment leur travail. Alors, et on pourra en citer d'autres effectivement comme ça, mais il y a beaucoup de surgestion. On veut en permanence évaluer le climat social. On veut en permanence avoir des baromètres. Alors, il se trouve qu'il y a à peu près deux mois, j'ai eu l'occasion de faire une intervention, c'était à deux voix, et c'était avec un DRH, et c'était le DRH de l'ADS. Et alors, il expliquait à la tribune, devant un parterre de cadres dirigeants pour l'essentiel, qu'ils avaient fait une enquête de mesures, plutôt d'implication des cadres. Les résultats n'étaient pas bons. Alors, on lui a posé la question à la salle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout simplement, cette enquête qui a été validée par un cabinet de conseil Gallup, disait bah, la moyenne finalement de l'implication des cadres de l'ADS est moins importante qu'une moyenne, on va dire, standard, normée, selon des normes qu'ils avaient définies. Bon, pourquoi pas. Donc le DRH, évidemment, n'était pas vraiment satisfait de cette situation. Et quand quelqu'un à la salle lui pose la question, et comment vous allez corriger ce tir, il répond, dans la minute qui suivait, ah mais on a prévu de mettre en place tel ou tel type d'outil, et il rajoutait en un instrument de gestion. Alors je me suis permis de lui dire, écoutez, je pense que cette accumulation permanente des instruments de gestion, quelque part, ça masque toute la distance qui vous sépare, effectivement, des salariés qui n'arrêtent pas de dire où ils sont les RH. Où sont les RH? On a entendu ça dans la recherche action en permanence. Mais ils sont où les RH? Alors aujourd'hui, on voit et on lit beaucoup de choses, il faut des RH de proximité. Et on a dit à un moment donné, tous les managers sont des RH. Les effets de pendule, très bien, mais on voit bien que ça ne marche pas bien. Donc je pense qu'effectivement, dans le management de proximité, cette dimension-là ne doit pas être absente. Mais tous les managers ne sont pas pour autant des RH. Donc ça veut dire que la question de l'appui et de l'appui de proximité à ceux qui ont la charge effectivement de mener des projets et d'encadrer les équipes, ça c'est une vraie question. Et quel est l'équipement? Et là c'est pas, je dirais simplement, une boîte à outils qu'il va falloir sortir. C'est comment on recrée de l'ingénierie de la discussion sur le travail. C'est comment on recrée de l'ingénierie de la discussion sur les compétences. Ces questions-là par contre sont extrêmement importantes. Et là effectivement aujourd'hui il y a encore un grand vide, c'est ce que nous exprime... C'est ce que nous avons exprimé, surtout d'ailleurs les cadres et les ingénieurs de Guillaume. C'était assez frappant, enfin, on a entendu aussi le discours dans les fonctions publiques, mais chez eux c'était encore plus marqué, et je terminerai juste là-dessus pour ne pas prendre trop de temps de parole, mais on leur a posé la question, mais qu'est-ce qui vous gêne le plus aujourd'hui dans votre boulot, j'irais dans un centre comme celui-ci. Et finalement ils nous ont tous répondu à peu près la même chose, nous sommes ingénieurs. On a été recrutés ici, nous, j'irais, dans ce centre, hein, pour faire, bon, à la fois, j'irais, un travail de conception. On n'imaginait pas que notre travail de conception soit aussi théorique. C'est quelque chose qui est ressorti extrêmement fort. Alors, on a gratté en disant, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, d'avoir un travail de conception? Vous êtes des concepteurs. Ça veut dire quoi d'avoir un travail aussi segmenté théorique? Ah, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe en amont. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe en avant. Donc on nous dit, voilà, c'est ça, et c'est ce périmètre-là. Alors, quand on remonte, effectivement, la filière, je ne sais pas s'il y a des gens dans le secteur de l'automobile, mais j'ai posé la question aux administrateurs, salariés, élus au conseil d'administration, pour savoir si, à un moment donné, lorsque Carlos Ghosn était arrivé, c'était posé la question de l'organisation du travail de conception, donc essentiellement de ce public d'ingénieurs. Et mon collègue, l'administrateur CFDT, a eu l'honnêteté de me dire oui,
par rapport à l'entreprise, enfin voilà. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il
y a. Oui, je ne suis pas tout à fait patron de branche TP Trans, mais des activités terrassement de Vinci Construction. Et je vais intervenir en trois temps. Un premier temps, je vais essayer de poser ce qui peut sembler être un paradoxe. Un deuxième temps, où je vais raconter l'histoire que j'ai vécue ces deux dernières années, une opération de restructuration difficile. Je dirai pourquoi, je dirai ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Et puis après, je vais donner mon point de vue très personnel. Probablement un peu moins autorisé que celui de mon voisin, puisque je suis finalement qu'un patricien du management, comme on peut dire, hein, dans une entité qui regroupe un peu environ 1500 salariés, mais qui sont alimentés par mes activités de secrétaire général de Grand Alliance, aussi bien que celles de participants à la vie publique, tout simplement. Le paradoxe que je voudrais lever, déjà, c'est le suivant. C'est un sondage que j'ai lu récemment dans un grand quotidien, et qui dit que il y a 87% des cadres qui sont heureux. Alors qu'en soi, c'est un score qui est absolument magique, et quand bien même on bâtit quelques probabilités qui peuvent faire que ce résultat est faux, on s'aperçoit quand même qu'une grande majorité des cadres sont heureux. Et la phrase d'après, c'est que il y a 45% des cadres qui jugent que leurs collaborateurs sont peu ou pas motivés. Et comme la plupart des collaborateurs sont également des cadres, ça veut dire qu'il y a à peu près une moitié, une petite moitié de cadres qui sont heureux et pas motivés. C'est quand même un paradoxe relativement intéressant. Le deuxième point à relever, c'est que la faiblesse de la motivation va rapidement en croissant, puisqu'en janvier de cette année, il n'était que 39%. Un mois de passe de 39 à 45%. Je crois que ça alimente un certain nombre de réflexions déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi ces deux dernières années? Bah, j'ai fait un acte de management classique, c'est-à-dire que j'ai été amené, je n'ai pas forcément choisi, mais enfin c'est comme ça, à restructurer une activité dans un contexte extrêmement difficile. Le contexte général est le suivant, c'est globalement une crise dans l'activité que j'ai à diriger, une crise majeure, puisqu'en deux ans, le volume d'activité concerné par nos travaux en France a baissé de 40%. Je crois que tout le monde ici imagine ce que représente une activité qui baisse de 40% en un peu plus de deux ans. Avec une métamorphose complète de ce marché qui, comme l'a dit Michel tout à l'heure, est en train de buter, c'est-à-dire qu'on passe de marchés traditionnels à des marchés qui ont un contenu beaucoup plus important en ingénierie, qui nécessite une réorganisation assez profonde de nos entreprises. Et dans ce contexte, j'ai donc dû opérer la fusion de deux entreprises qui étaient filiales du même groupe, qui faisaient la même activité, donc vous imaginez qu'ils étaient copains comme cochons, avec des cultures extrêmement différentes. Et pour corser le tout, dans deux ans, par rapport à aujourd'hui, je pense que nous allons très probablement doubler notre activité. Donc je ne sais pas si tout le monde imagine ce que ça peut être que de gérer une fusion entre deux entreprises profondément concurrentes, profondément ennemies, je vais prendre ce terme ennemi qui est un peu fort, mais qui n'est pas très loin de la vérité, avant une reprise très vigoureuse de l'activité et dans un contexte de bouleversement complet du type de travaux que nous réalisons. Et on l'a fait, et je pense pouvoir dire aujourd'hui que même si ce que je vais dire n'a pas vocation à être exemplaire, parce que je ne pense pas que ce soit reproductible, c'est une réussite et qui met en avant un certain nombre de choses qui sont intéressantes pour le débat d'aujourd'hui. Voilà. La première chose qu'on a fait, c'est que on a été extrêmement transparent. On a dit la vérité. Ce que je vous ai dit de façon très sommaire, on a dit la vérité. Et on l'a dit à tous les niveaux d'entreprise. On l'a dit au comité de direction, on l'a dit lors des réunions des cadres, mais on l'a également dit en CE, devant les délégués ouvriers, délégués TAM, délégués cadres. Et globalement, cette analyse sur ce mot transparence. Mais c'est une transparence qui nécessite, vous imaginez bien, un certain courage, puisqu'on explique à des gens que bah, ça va être très dur. Et que c'est jamais facile de dire à quelqu'un, les yeux dans les yeux, que ça va être très dur, parce que tout le monde imagine ce qu'il y a derrière le mot très dur. Ensuite, on a fait notre travail, c'est-à-dire qu'on a défini les axes stratégiques, on a défini une stratégie qu'il fallait mettre en œuvre pour passer là-dedans. Et cette stratégie, encore une fois, on l'a partagée à tous les niveaux d'entreprise. Et on a fait adhérer le personnel d'entreprise à cette stratégie. Avant de demander à l'ensemble des cadres de réfléchir aux éléments qu'il fallait mettre en place pour qu'il y ait cette stratégie. C'est-à-dire que quelque part, on a reconnu au cadre le droit de s'exprimer sur la base des éléments que nous avions déterminés en comité de direction, le droit de s'exprimer sur ce qu'il fallait faire pour gagner les différents paris que nous pensions nécessaires de gagner pour tenir cette stratégie. Dans le même temps, je ne dis pas qu'on n'a pas perdu d'emploi, parce que globalement, tous les emplois qui étaient précaires, je parle de l'intérim, des contrats à durée déterminée, et en ce qui concerne nos entreprises de construction, des contrats à durée de chantier, bien évidemment, ont été supprimés, puisque globalement, on ne pouvait pas tenir le même niveau de production, mais on a engagé, on a continué à embaucher des jeunes dans des niveaux de compétences dont on savait qu'on allait avoir besoin, et à former ces jeunes de la même façon qu'on continue à former l'ensemble des couches de l'entreprise. Donc effort de formation, effort d'embauche dans des compétences que je qualifierais de rares. Et on a pratiqué une politique salariale qui n'a pas été une politique d'extrême rigueur, même si vous imaginez bien qu'on n'a pas été généreux, mais une politique de rééquilibrage des conditions salariales des deux anciennes entreprises qui étaient différentes, avec pour l'entreprise qui était considérée comme étant la plus généreuse, non pas un statu quo en matière de rémunération, mais la prise en compte des conditions d'inflation. Donc, quelque part, une politique tout à fait classique, qui n'est pas une politique de crise. En tout cas, pas le zéro promotion. Donc, le résultat politique, finalement, il est multiple. Le premier, c'est que, en mettant l'accent sur la nécessité de faire évoluer notre entreprise, de prendre en compte les évolutions nécessaires qu'on allait avoir, je pense que nos collaborateurs n'ont pas vraiment senti l'état de la crise. C'est-à-dire que, globalement, on avait à se battre pour mettre l'entreprise en situation de survivre, et de bien survivre et d'affronter les défis qui étaient les nôtres. On les a fait participer à ce travail, et globalement, je pense que ils l'ont plutôt bien vécu. Le deuxième, c'est qu'on a créé une culture commune. Hein. Ma grande frayeur, ma grande crainte, quand on a questionné nos cadres sur qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette stratégie, c'était que je me retrouve avec finalement deux tactiques différentes provenant du personnel des deux entreprises. J'avais tort d'avoir peur, puisqu'en fait, il y a eu une seule tactique, et que les gens finalement se sont mis d'accord autour de la table pour que le personnel ici des deux entreprises, finalement, soit en phase sur ce qu'il fallait faire pour gagner. Et globalement, je pense qu'en quelques mois, on a créé une culture commune à nos deux entreprises. Le troisième élément, c'est qu'on a trouvé des vraies solutions aux problèmes qui nous étaient posés. Parce que quand on pose des questions à des gens qui savent de quoi on parle, en général, on est un peu plus intelligent. Et le quatrième effet, c'est que ça a créé une motivation réelle dans l'ensemble de nos cadres, qui aujourd'hui ne s'est pas éteinte, avec des résultats probants, c'est-à-dire que l'absentéisme n'a pas augmenté dans aucune des couches d'entreprise, que notre trésorerie, nonobstant la crise, continue à augmenter, et que notre carnet de commandes est au quelque part un succès. Et quand je le regarde un peu avec le regard du passé, enfin, quand on regarde le passé, c'est toujours un peu plus facile, je crois que finalement, on n'a rien fait de très original. On n'a surtout rien fait de managérial. On n'a cédé aucune bonne, on a simplement fait un travail d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on avait un problème, on l'a posé, et puis on a cherché à le résoudre avec les gens qui pouvaient participer à cette résolution. On n'a rien fait d'autre que d'être transparent. On a essayé de donner du sens à l'action collective de nos collaborateurs. Et on leur a donné de l'importance en les écoutant et puis en respectant ce qu'ils nous disaient, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils nous ont dit est un plan que nous mettons en œuvre. Et je crois que finalement, si je devais juger de ce qui fait qu'aujourd'hui nos cadres sont motivés, c'est la réunion de tous ces éléments, ce mélange de transparence, de courage, de respect et d'écoute. Il y a plus différent de ça, et finalement ça rejoint assez bien ce que a dit mon professeur. Après, je voudrais livrer quelques réflexions sur ce que j'entends à droite et à gauche, des réflexions très personnelles, sur ce que je pense de la démotivation éventuelle des cadres, même si je pense qu'ils sont moins relativement heureux. Il y a un premier sujet qui est un sujet qui me semble assez important, c'est le sujet de l'ascension sociale, du déclassement et de l'équité. Aujourd'hui, on voit que la fourchette des rémunérations s'accroît fortement avec des cadres de hauts dirigeants qui partent avec des retraites chapeaux qui dépassent les 2 millions d'euros, alors que dans le même temps, un certain nombre de cadres ont du mal à avoir des promotions qui dépassent le pourcent. C'est clair que cette inégalité est sévèrement ressentie par l'encadrement. Elle est d'autant plus que les règles de jugement de leur action sont souvent ressenties comme étant opaques et manquant de transparence. Sans vouloir parler de déclassement, je pense que la difficulté à opérer une ascension sociale qui est extrêmement créatrice de motivation, puisque globalement, en montant dans les couches sociales, on gagne en qualité de vie, quelque part, on fait du mal également à cette motivation. Le deuxième élément que je voudrais mettre sur la table, c'est l'échec. On vit dans un pays où, de mon point de vue, on ne pardonne pas l'échec. Surtout, on attribue l'échec à l'individu plus qu'aux circonstances. Il y a d'autres pays où, en cas d'échec, on sait pardonner à l'individu et considérer que finalement l'échec va probablement le faire grandir. À titre personnel, j'ai tendance à considérer que ce sont mes échecs qui ont le plus participé à faire de moi ce que je suis. Enfin, c'est plus mes échecs que mes réussites en tout cas. On réfléchit rarement sur ces réussites, alors que les échecs amènent beaucoup de réflexion. Je trouve que c'est très dommage que notre pays ait une telle crainte de l'échec, parce que quelque part, ça génère une faible appétence pour la culture de la prise de risque, qui, à mon avis, est préjudiciable à notre efficacité, et là aussi à notre motivation, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la motivation, si ce n'est l'appétence à prendre un certain nombre de risques. Après, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est le manque de courage des dirigeants. Les dirigeants, d'une façon générale, pas simplement les dirigeants de nos entreprises, à qui il ne faut pas jeter la première pierre, on s'en fout. Je pense que chacun essaie de faire son travail du mieux possible, mais néanmoins, il y a un manque de courage flagrant. Et on voit certaines situations dans lesquelles, alors que de façon inévitable, on sait qu'on va dans le mur, ben on évite de le dire. Parce que c'est pas le moment, parce que c'est difficile de dire qu'on va dans le mur, parce que c'est difficile de proposer des politiques alternatives. Et je pense que cette ligne de conduite qu'on retrouve chez certains de nos hommes politiques, on la retrouve également dans les dirigeants d'entreprise, mais également dans le management à niveau intermédiaire et à tous les niveaux de cadre. J'ai cité deux trois exemples. L'entretien individuel. Ce n'est pas forcément l'entretien d'évaluation, mais un entretien de compétences, un entretien de management pour juger des besoins de nos collaborateurs. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. On va annuel hein, qui a pour but de donner à l'ensemble de nos collaborateurs, cadres et agents de maîtrise la compréhension managériale de l'entretien individuel, de comprendre les ressorts. Et on a un mal fou à donner la qualité nécessaire à ces entretiens parce que quelque part, on trouve une vraie timidité, une vraie difficulté à affronter l'autre lors d'un entretien qui n'est pourtant pas un combat, lors d'un entretien qui est simplement un échange entre deux personnes, l'un ayant une responsabilité hiérarchique sur l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est assez typique de mon point de vue, d'un manque de, ou d'une difficulté à assumer une responsabilité. Et je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre là aussi à nos collaborateurs. Avant-dernier sujet, c'est toujours un sondage, il y a 40% des cadres qui estiment ne pas être consultés pour des décisions qui pourtant les concernent directement. C'est un sujet très grave qui, à l'évidence, ne peut pas générer de la motivation là aussi. Et je voudrais terminer par les jeunes, parce que très souvent on dit que les jeunes ne sont plus motivés, que les jeunes ne savent plus ce que c'est que le travail. Moi je voudrais dire que de mon point de vue, il n'en est rien. Je trouve que la jeunesse est formidable, qu'elle est extrêmement motivée, mais qu'elle a complètement changé de culture par rapport à ma génération, par rapport au travail. Pourquoi elle a changé de culture? On est un peu dans une génération qui, dont les parents ont vécu des plans sociaux, un certain nombre de grandes difficultés économiques, et qui ont vu comment les entreprises se comportaient vis-à-vis de leurs parents, de leurs proches, de leurs oncles, etc. Et globalement, je trouve que la jeunesse aujourd'hui, elle opère vis-à-vis du travail par contrat, avec une capacité de zapper ce qui ne va plus, qui est terrible. Ce n'est pas un défaut de motivation, parce que je vois des jeunes travailler avec une énergie dont peu sont capables, et beaucoup de jeunes hein, là-dessus hein, se battent vraiment très fort, mais dès que quelque chose ne va plus, dès que ils sont capables de zapper beaucoup plus vite que ne l'étaient les gens de ma génération qui, quelque part, étaient relativement sensibles au discours de l'entreprise qui, quelque part, allait assurer l'avenir de ses salariés. Voilà ce que je voulais vous dire de mes petites expériences professionnelles. Je vous remercie.
Merci à vos deux orateurs. Je propose qu'avant d'aborder à la phase de discussion, chacun puisse réagir par rapport aux propos autres. Je remercie David de témoignage, qui est en même temps une ouverture autant au nouveau et au débat, avec ce qu'il vient de nous dire, et puis un propos très digne de Churchill. Vous avez promis le sang et les larmes, et vous avez eu succès, mais c'était vraiment difficile. Bravo. Est-ce que Jean-Paul Bouchet voulait éventuellement dire deux mots en réaction à ce que vient de dire David Nachmanter et Charles Laurent, bien sûr, avant que nous votions là.
Oui, mais j'ai envie d'abord d'appuyer, je crois que la question de la démarche et de la façon dont on conduit effectivement des opérations comme celle-ci n'est quand même pas neutre. Là, je ne suis plus à la limite dans une posture simplement d'acteur syndical. Le directeur des systèmes d'information que j'ai été, qui a dû faire du facility management, ce qu'on appelle donc l'outsourcing dans le langage très savant, outsourcer l'activité complète avec un engagement extrêmement fort de dire on ne doit pas laisser un seul salarié sur le carreau. Je peux vous garantir que quand vous êtes patron d'une structure, et là je rejoindrai volontiers ce qui a été dit par la personne, c'est que c'est quelque chose, ça s'anticipe. Ça se pilote, ça se conduit, ça ne se fait pas n'importe comment, si effectivement on ne veut pas qu'il y ait de dégâts, et si on veut garder en bout de course, effectivement, les salariés d'une manière assez générale, qui restent effectivement motivés. Réaction également positive autour de moi qui pas mal travaillé avec l'Amérique du Nord et avec les entreprises aux USA, j'ai été effectivement frappé par cette difficulté que l'on a aujourd'hui en France. C'est pas capitalisé par l'échec, mais on ne reconnaît même pas. Effectivement, il y a le droit quelque part de se planter. C'est-à-dire, à partir du moment où on est cadre et responsable, c'est-à-dire qu'on prend des risques. Et quand on prend des risques, effectivement, il y a toujours une possibilité de se tromper, de faire l'erreur, etc. Et force est de constater qu'on ne parle pas beaucoup dans son entourage, on a vu tellement de situations également, soit de papa ou de maman, ou de cousin, de cousine, licenciés, parfois dans des conditions assez ubuesques, que cette question de la relation effectivement à l'entreprise a certainement changé. Mais ça n'enlève pas nécessairement de la motivation. Par contre, il faut effectivement de la transparence. On ne supporte pas bien, l'opacité, et on entend très très souvent ça autour de la question des évaluations. De la non-transparence des critères, de l'opacité, etc. C'est des choses qu'on a entendues assez régulièrement. Voilà les quelques réactions sur un dernier point. On met souvent en avant effectivement les managers, montrer du doigt, il va falloir qu'ils fassent ceci, il va falloir qu'ils fassent cela. J'ai regardé depuis le début de l'année, si vous lisez tous les rapports qui sont sortis, en plus ceux qui ont été commandés par le gouvernement. Bonjour, hein. Il va falloir avoir les reins particulièrement solides parce que vous lisez le rapport de l'ACMAD et de la ROSE qui dit que les managers doivent être formés, risques psychosociaux, les managers doivent faire ceci, responsabilité sociale des entreprises, les managers doivent faire cela. Je peux vous garantir que les managers qu'on rencontre aujourd'hui, ils ont la tête bien faite, ils ont les épaules bien carrées, mais ils commencent à nous dire si toutes les semaines vous en rajoutez une couche, ça va commencer à devenir un peu compliqué. Donc, il y a une solution très simple, c'est de faire de sorte que ce soit plus le gouvernement qui fixe l'agenda social, mais qu'on laisse effectivement un peu d'autonomie aux partenaires sociaux pour décider par eux-mêmes effectivement quel est le bon rythme de transformation et des réformes, parce que sinon, on va quand même avoir beaucoup de difficultés devant nous, mais pas simplement nous, les DRH commencent à dire aussi, ça suffit.
Oui, je suis globalement assez d'accord avec Céline. Mon voisin, c'est-à-dire que je ne pense pas que le statut de cadre soit amené à disparaître de sitôt. Je pense que c'est un statut qui est tranchant, qui est pérenne. Par contre, je pense qu'on a un vrai problème de management, j'aime pas le terme, et que, comme cela a été dit, les conditions dans lesquelles nous effectuons nos travaux sont réellement à l'origine des malaises éventuels qu'on peut constater ici ou là. Et que c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais pas avec des outils de management plus ou moins à la mode, mais avec des valeurs qui sont finalement relativement simples quand on les énonce.
Et voilà, donc merci à nos deux orateurs, je crois qu'il est à peu près l'heure, c'est ça, donc on va être à la mi-temps, donc on va beaucoup le débat. Je vais avoir des yeux télescopiques pour regarder, y compris dans la salle du fond, les mains qui se lèvent, ou éventuellement, mais si vous avez la gentillesse effectivement de dire ce que vous êtes et de former une petite concrète, ce sera sur le service.
Daniel Guillard, je voulais vous demander si le fait que vous avez des entreprises maintenant durables, dans le concept de développement durable, de la compétition de l'environnement, a entraîné finalement une nouvelle couche de reporting, puisque vous avez parlé de cette contrainte. Les questions de développement durable ont été déléguées à une autre direction. Comment ça se traduit finalement pour les cadres l'intégration d'un concept de développement durable dans l'entreprise ? Pas simplement durer pour le plaisir de durer, mais intégrant vraiment des aspects liés notamment à l'environnement.
C'est la bonne réponse que je vous pose. Alors je vais essayer de répondre. C'est une question très très difficile parce que finalement ce qui est vrai pour l'ensemble du reporting est vrai pour le développement durable. Et il y a plusieurs façons de prendre les choses. La première, c'est de dire ce qu'il faut faire parce qu'il faut faire du développement durable. J'ai tendance à considérer que ça ne marche pas très bien et ça a plutôt tendance à fabriquer des outils qui ne seront pas ou peu utilisés, qui de toute façon ne font pas grand-chose. Et puis, il y a faire adhérer à un certain nombre d'éléments du développement durable dans le cadre d'une politique qui a été partagée, dans lequel là aussi il y a du sens, il y a des vraies choses derrière le développement durable. Il n'y a pas que l'environnement, il y a également la vie sociale. Je pense que c'est plutôt un enrichissement de nos tâches qu'une charge complémentaire. Donc là aussi, je crois que le sujet, ce n'est pas le développement durable ou pas le développement durable, le sujet, c'est comment c'est fait et dans quel sens.
on a deux grandes catégories de réponses. Il y en a quand même une grande partie, on ne s'est pas posé cette question-là. Pas sous cet angle-là. C'est important de le rappeler. C'est-à-dire que quand on regarde, si c'est la question de la reddition, donc du reporting, on voit bien qu'il y a une obligation de rendre compte, y compris un certain nombre d'acteurs tiers, donc à travers de la notation, y compris extra-financière. Nous, on considère que dès lors qu'on associe le développement durable aux trois socles, je préfère parler de socle que de pilier, parce que les piliers ne se croisent jamais. Et on parle bien d'économique, de social, sociétal et d'environnemental. Et c'est bien l'articulation entre ces trois dimensions qui est essentielle. À une condition, c'est que cette articulation, cet équilibre quelque part, ce ne soit pas simplement une question macroscopique. Ce n'est pas simplement une question macro à l'échelle d'une gouvernance planétaire, où on voit bien que ça n'existe pas bien. Entre l'OMC, l'OIT et puis la Banque mondiale, on ne peut pas dire que ça pose bien tous les jours. Eh bien, si vous ramenez ça à un niveau extrêmement micro, qui est celui de la prise de décision d'un manager dans une entreprise, comment ces trois dimensions-là sont-elles présentes, simplement? Et je pense que la réponse ne peut pas être simplement dans une réponse d'individu. Certes, il faut former les managers à la prise en compte de ces trois dimensions, y compris dans le processus de prise de décision. Mais nous croyons encore plus et mieux à la capacité de ces mêmes acteurs à confronter les points de vue et donc à organiser quelque part cette confrontation, y compris parfois idéologique, et pas simplement entre un comité d'entreprise et les directions, mais même à l'intérieur d'un comité de direction. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sujet de débat et de controverse, cette question-là, à l'intérieur d'un comité de direction? J'ai fait l'expérience, pour avoir suscité la controverse, de me dire, mais monsieur, m'a dit deux choses ce jour-là, m'a dit, écoutez, vos questions sont saugrenues, donc ou vous vous démettez, ou vous vous soumettez. C'est typiquement, je dirais, lisez le bouquin de Bourpasson sur la religion des cadres, on est typiquement, effectivement, sur ces questions-là. Et alors, au moment du licenciement pour divergence stratégique, terminé comme ça. J'étais en face du numéro 1 de cette très très grande entreprise catalane qui me dit, monsieur Boucher, vous avez beaucoup de qualités, mais vous avez un seul et unique défaut. Écoutez beaucoup d'attention lequel. Il m'a dit, vous dites la vérité. Alors, voilà, je le renvoie. Qu'a dit mon président.
Demain, on peut fabriquer un avion, Boeing sait le faire, Airbus sait le faire. recherche au pouvoir partout, et on arrivera de facto à un malaise qui sera finalement peut-être la condition de la bonne gestion de l'entreprise gagnante. C'est un paradoxe, et pourquoi pas.
J'ai vu une deuxième main qui se levait, qui est éventuellement on peut commencer à ramasser deux, trois questions, et puis je vais noter qu'il y a entendu.
Bonsoir, Eric Merdi. Bonjour, une question qui se passe plutôt autour de ce qu'on appelle parfois les signaux faibles. L'un et l'autre, on vous dit peut-être très bien par rapport aux infos et l'expérience que vous avez décrit, des cas où, par exemple, vous avez cité Carlos Ghosn qui arriverait en conseil d'administration, qui poserait la question de qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qu'on va améliorer, et qui aurait à travailler un certain nombre de personnes en responsabilité qui connaissent les cas qu'on fait des jugements d'échec et qui, pour préserver leur propre situation, paieraient délibérément ce qu'ils pensaient ou qu'ils voudraient voir dit, mais dont ils craignent évidemment les conséquences pour eux-mêmes. Dans un système comme ça, comment on gère ? Merci.
C'est une troisième main, et puis oh là là, il fait une main, mais je prends juste une troisième, peut-être parce que je crois que nos orateurs ont dit des premières questions, et puis un petit peu, on fera une bonne question.
Hervé Chabord, moi je voulais juste repartir du titre des élites inquiètes. Est-ce que l'inquiétude de nos élites, ce n'est pas de voir le fossé entre le court terme, le très court terme qui est imposé aujourd'hui au cadre, alors qu'eux voudraient rêver de quelque chose qui est un plus long terme? Comment réconcilier les deux?
Revenir sur ce que vous avez exprimé, non pas pour remettre ça dans une dimension temporelle des millénaires, mais à travers un exemple extrêmement précis, puisque c'est pas la Chine. Il se trouve qu'il y a deux ans, donc, on participait avec une organisation européenne qui s'appelle Eurocadre, donc à peu près 6 millions de cadres en Europe, à un forum qui était le forum Chine-Europe, dialogue de société civile à société civile entre l'Europe et la Chine. Nous avions, j'avais en charge, j'avais la responsabilité d'un atelier de ce forum autour du management. Et est-ce qu'il y a une vision partagée de ce que serait un management responsable, aussi bien en Europe qu'avec nos interlocuteurs chinois? Bon, cet atelier a réuni une vingtaine de participants, il y avait donc 10 chefs d'entreprise chinois qui étaient là. Je vais tout de suite à une des conclusions, parce que la première journée, les langues ne s'étaient quand même pas trop décrites. On sentait que l'un des traducteurs avait une tendance naturelle à ne pas dire tout à fait, à mon avis, ce qu'avaient dit nos interlocuteurs chinois. Mais je vais à l'essentiel, à l'issue effectivement de la deuxième journée, avant que se termine cet atelier. Ils nous ont dit deux choses. La première, c'est qu'on ne pourra pas s'en sortir seul sur les questions environnementales. La deuxième chose, c'est entre finalement des entreprises dites publiques, donc sous contrôle d'État, et puis des entreprises privées, on n'a pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes managers. Et c'était un problème de fond, enfin il l'exprimait en tous les cas de cette manière-là. Alors, ça ne répond pas directement à votre question. Je crois que cette confrontation permanente, effectivement, c'est à mon avis de toute façon un levier de progrès, n'importe comment. Il faut continuer à dialoguer de cette manière-là. Au même titre qu'on a continué à dialoguer avec les ingénieurs en informatique, je dirais sur Bangalore et sur Mysore, là où les ingénieurs en Europe disaient qu'ils vont tous nous piquer notre boulot, je dirais dans quelques années, dans ce secteur des technologies de l'information et de la communication. Donc voilà, ce dialogue il existe aussi à l'échelle internationale, le syndicalisme il prend aussi parfois sa place. Et donc, moi, j'ai une vision, malgré tout, plutôt positive, j'irais, de tout ça, malgré toutes les difficultés qui ont pu être exprimées. Sur la question de droit de dire ou de ne pas dire, c'est toute la question du dilemme, hein, du dilemme professionnel, parfois, exercice extrêmement compliqué. Et je ne dis pas ça en théorie. C'est que tout simplement, on est lié au point où un service amical pour des cadres qui sont confrontés à des situations humaines. Déjà, ceux qui osent parler et qui osent prendre un candidat téléphonique pour nous dire c'est quoi mon problème, déjà, c'est une démarche relativement courageuse. Ce qui nous a frappé quand même dans tous les cas qu'on a pu recenser depuis qu'il existe ce service, c'est ce besoin de parler, et de parler à un tiers, et qui va pouvoir être aussi un appui professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux pas dire dans l'entreprise, sans le souvent entendre. Je n'ai pas envie d'être ramener chez moi. Donc, quelque part, j'épargne mon environnement familial de cette situation. Ben oui, mais si vous ne pouvez le dire nulle part, là, ça devient un problème. Un des salariés de France Télécom qui n'est plus là aujourd'hui, malheureusement, c'est parce que peut-être qu'il n'a pas trouvé cet espace, ou ce lieu, effectivement, de la part. Dire tout ce qu'il avait dans les prix, tout ce qu'il n'avait pas. Donc il faut aussi, alors c'est pas n'importe quel type d'écoute, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu former des gens, c'est quelque chose, et c'est pas sur un diman, hein, c'est sur de l'appui. Non mais je dis ça parce que, attendez, les pesés les deux jours, moi j'ai lu hein, avec beaucoup d'attention tout ce qu'ils ont écrit, il se trouve qu'il était là dans une rencontre que vous avez organisée également, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans ce discours-là. Non, on doit être d'abord dans l'appui professionnel et dans l'appui collectif, dans la proximité, avant d'être effectivement, je dirais, dans des situations.
Moi, je voudrais répondre à la question sur le long terme et le court terme. Ça, il faut sans arrêt traiter les deux, c'est pas le dilemme d'aujourd'hui. On est obligé de parler du long terme parce que globalement, c'est les enjeux stratégiques de nos activités qui, quelque part, conditionnent l'avenir. Mais pour aller jusqu'au long terme, il faut d'abord passer par le court terme. C'est-à-dire qu'il faut vivre suffisamment longtemps pour arriver au long terme. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui, aujourd'hui, est exacerbé par la rapidité de l'information, par les exigences financières, mais ça n'est pas fondamentalement nouveau, c'est simplement un peu plus fort que ça n'était avant. Donc moi personnellement, je n'ai pas tendance à considérer que long terme et court terme sont contradictoires, ils sont simplement à traiter ensemble et nécessitent des réponses stratégiques appropriées. En tout cas, je ne le vis pas comme étant une autre chose qu'une contrainte de notre activité quotidienne. Après, sur votre question sur la confrontation, oui, je crois que la confrontation a toujours été génératrice de progrès. Et personnellement, je ne crois pas qu'il faille la craindre. Il y a toujours des solutions qui existent pour traiter ce genre de sujet. Il suffit de les trouver, même si c'est parfois très difficile. Vous savez, vous avez parlé des Chinois, les Chinois n'ont pas que des avantages. Ils ont un avantage économique certain, mais il y a des choses qui ne font pas très bien. Il y a un certain nombre de clients d'entreprises chinoises qui ne sont pas forcément très contents du travail des entreprises chinoises. Il faut trouver son marché et l'exploiter avec lucidité et intelligence. Le problème que vous posez est à mon avis un vrai problème. C'est le problème de, quelque part, la capacité à dire des choses complexes. Moi, je crois beaucoup au dialogue et à la nécessité de créer dans l'entreprise, à différents niveaux, un dialogue qui permet de s'exprimer le plus possible sans crainte. Pour moi, c'est une condition du succès, parce que si on ne le fait pas, globalement, on s'aperçoit que les vraies idées ne passent plus, qu'il y a parfois des murailles de Chine qui se créent, qui protègent un tel ou un tel, mais qui surtout mettent en péril la collectivité. Parce que chaque fois qu'il y a une muraille de Chine comme ça, c'est qu'il y a un problème derrière qui ne peut pas être avoué et qui peut avoir des conséquences graves. Donc quelque part, je crois que nos devoirs de dirigeants, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la capacité d'écoute, y compris d'écoute des choses qui sont désagréables. Il faut savoir écouter le désagréable. Alors après, c'est difficile. Donc là, je crois que les organisations syndicales ont vraiment tout leur rôle, parce que quand le management d'une entreprise est dépassé par la difficulté, et ça peut arriver, je crois quelque part qu'il faut des relais. Enfin, dans toute société, il y a des relais à ce qui est difficile. Ça peut être sur les syndiqués, ça peut être des tas de choses qui permettent de dire à des gens qui sont particulièrement à l'écoute des choses très compliquées pour essayer de trouver des solutions. Et moi, je trouve que ce que fait la CFDT à ce niveau-là est remarquable. Mais ce devoir d'écoute est, à mon avis, un devoir fondamental de l'entreprise.
Merci beaucoup. Alors, dans ce cas-ci, je crois que Romain s'est levé, mais je vais commencer par la première.
Bonsoir. Monsieur Boucher, tout à l'heure, vous avez souligné la distance qui était ce problème entre le top management et le management intermédiaire en accusant son outil reporting. Est-ce qu'il ne vous a pas été remonté ou est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette distance peut être et de plus en plus physique dans un culturel, dans un cadre mondialisé?
Vous m'autorisez la deuxième intervention?
Je suis Philippe, je ne suis pas cadre dirigeant et je n'ai pas beaucoup de relais. Je suis dans une petite entreprise et filiale d'un grand groupe de type la CFDT. Très intéressé par l'ensemble des sujets dont vous venez de parler, en particulier donc, cette confrontation dans les entreprises entre le court terme, la suggestion, d'autres modes finalement de paroles qui peuvent être en façade totalement autorisées mais en pratique interdites avec une absence de dialogue pour se rentrer dans des sujets profonds. Simplement parce que, vous mentionnez un peu la question du courage, il y a un certain nombre de gestions, un mode de gestion qui arrive d'en haut. Une majorité de gens se sont obligés de suivre ce mode sans en être totalement convaincus et en ayant du mal à trouver d'autres orientations. La question que je me pose, c'est pour un cadre moyen, comment faire passer des messages de l'ordre de la priorité, finalement, ce qui va pouvoir donner des efficacités comme celle dont vous avez parlé, Neuschwander, c'est-à-dire, finalement, à partir d'un problème simple, à côté des obligations qui vont prendre 80-90% du temps, qui vont interdire de mettre en place des solutions qui sembleraient. Par contre, désolé, j'ai du mal à synthétiser la question. Donc, je vais peut-être la résumer en disant, pour un cadre, comment et dans quel lieu apprendre à communiquer en interne pour son équipe et au niveau de sa hiérarchie proche pour faire passer d'une façon compréhensible et politiquement correcte, parce que c'est difficile, les solutions qui semblent émerger dans le groupe ou autour du groupe d'efficacité mais qui ne rentrent pas dans les canaux obligatoires de la des modes de gestion dominants ou proposés tout en étant parfaitement compatibles. Ce que je cherche plus, c'est un lieu pour réfléchir à ça.
La deuxième question n'est pas la plus facile sans doute. Donc, je repars de la première sur la question de cette distance. Oui, la distance n'est pas simplement une question de. Parfois, c'est une distance sur des questions de valeur. Il y a des questions tout à l'heure d'inéquité lorsqu'elle est ressentie profondément, effectivement, par les salariés. ne dépend pas de moi, c'est-à-dire que ça dépend de quelqu'un d'autre. Hein. Et pour ne pas parler ensuite, je vais citer l'exemple de mon petit collègue délégué syndical chez Oracle. Hein. Le patron d'Oracle France, il dit, mais vous savez, mes marges de manœuvre sont extrêmement étroites. Alors quand on creuse un peu, on lui dit, mais c'est quoi finalement vos marges de manœuvre? Ben là, on se rend compte, en grattant effectivement un peu, qu'il a des obligations syndicales en termes effectivement de reporting, en termes d'atteinte d'objectifs. Il a un petit peu de marge de manœuvre sur la gestion RH, mais il y a quand même des outils et des normes qui sont largement pilotés par la maison mère de l'autre côté de l'Atlantique. Et il se trouve qu'un soir, ils étaient dans une situation de, on va dire, d'une certaine tension. La maison mère, voulait mettre en place un code éthique. Alors je prends cet exemple-là parce que je le trouve tout à fait intéressant. Et toutes les filiales, bien sûr, d'Oracle dans le monde étaient concernées. Et le directeur général d'Oracle aux États-Unis avait ses petits drapeaux. Et il mettait un petit drapeau vert sur chacune des filiales. Donc il avait sa marque monde. Et au fur et à mesure que la filiale avait signé, s'était engagée sur le code éthique en question, il mettait un petit drapeau. Là-bas, c'est irrésistible, petit Gaulois, c'est toujours les mêmes, etc. Autant dire que le directeur général de Rachel France n'avait quand même pas très embêté dans cette situation, il ne savait plus par quel bout prendre le problème, parce qu'il avait en face plusieurs organisations syndicales qui disaient voilà, attendez, ce code-là, avec les règles qui sont consignées, si vous nous demandez de signer ça comme un avant le contrat de travail, vous êtes en train de nous demander de faire de la délation. C'est les suites de Sarbanes-Oxley ou de Doring, etc. Donc c'était insupportable, puisque délation, c'était Vichy. Donc, quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, il a fallu renouer les flux du dialogue. Ça s'est fait autour d'un bon repas, un soir, à dîner. Et on a quand même trouvé une solution. Et la solution qu'on a trouvée, c'est la suivante. C'est de dire, vous avez ce problème aujourd'hui, et bien écoutez, ça pose toute la question du droit de dire, du droit d'alerter. On est sur les questions d'alerte professionnelle. Puisque vous ne pouvez pas en rater tout le code écrit dans sa totalité, parce que ça a posé un problème, eh bien écoutez, commencez une négociation avec les partenaires sociaux justement sur la prévention des risques psychosociaux, la prévention des risques de dégradation de la santé au travail. Faites un début de dialogue et de négociation là-dessus, et lorsque vous aurez franchi cette étape-là, peut-être que vous pourrez dire après tout, on a franchi une étape permettant effectivement de discuter de ces questions d'alerte professionnelle et plus largement des repas, et finalement, ils ont ça y est, la négociation est engagée. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, au départ, il y avait beaucoup de distance. C'est une évidence, hein. Il y a beaucoup de distance. Mais nos collègues ingénieurs en Inde, je citais l'exemple tout à l'heure à Bangalore, en Inde, quand ils travaillent, il y a 50% des salariés de Capgemini qui sont aujourd'hui en Inde. Qu'est-ce qu'ils disent, nos collègues ingénieurs? Ou alors, de la prise de décision, ils sont loin. Et c'est une crainte. Capgemini, que je sache, c'est une multinationale française. Bien. Donc, c'est vrai que eux, ils ressentent effectivement, sans doute, cette distance. Donc, oui, ça existe, mais en même temps, je pense que ce n'est pas irréversible. Ils ont créé un comité, mondial au niveau de chez Capgemini, donc le dialogue est en train de s'installer. Donc, oui, il y a eu une distanciation également. À la mondialisation, mais c'est aussi à nous, à la force sociale, de trouver aussi des réponses. Et les réponses nouvelles, aussi dans ce contexte-là, on a encore beaucoup de progrès.
J'essaie de répondre à votre question en disant deux choses. Si j'ai bien compris la question, c'est vous pensez pouvoir proposer des solutions d'amélioration de processus dans votre entreprise, et comment l'exprimer. C'est ce que j'ai bien compris.
Comment réfléchir à comment l'exprimer et quoi construire. Pour reformuler la question, je suis désolé, de façon un peu différente.
De façon différente, ce que vous, à votre niveau, vous avez essayé de faire pour un projet important en tant que cadre dirigeant, comment, à notre place, dans une structure qui peut être les structures de France Télécom, de vie en cours, puisqu'elles ont été fixées avec leurs défauts, le salaire à petite échelle réfléchir à comment trouver une position intermédiaire qui ne heurte pas trop la structure, puisque le but c'est de travailler avec, mais qui permette de se rapprocher du mode, par exemple, que vous avez cité.
C'est effectivement une question très difficile, parce que ça c'est une question qui va au fond du management. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, l'entreprise n'est pas une démocratie. Vous pouvez le rappeler, c'est sûr, il y a des patrons qui sont là pour décider et éventuellement ne pas décider, enfin, c'est leur pouvoir. Bon, après, je pense que l'intérêt de tout le monde, c'est d'essayer d'améliorer la vie d'entreprise et d'améliorer les processus de cette entreprise. Après, il y a beaucoup de méthodes qui permettent de vivre ça. Ça peut être la pause café. Moi, personnellement, j'ai installé des cafetières parce que j'aime bien la pause café, qui est un moment où les gens échangent, c'est simplement un moment convivial, les gens échangent le plus souvent sur leur travail, sur des motifs personnels, mais qui est un moment de convivialité extrêmement positif. Après, chaque entreprise, chaque système peut avoir sa vision de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, au contraire, demandent de rester strictement dans le cadre qui a été fixé. Il y a des entreprises qui, au contraire, vont plutôt avoir envie d'écouter ceux de leurs collaborateurs, qui vont susciter des idées, des innovations, des progrès. Groupes qui font des concours d'innovation, qui recueillent des milliers de dossiers, j'en connais, et qui sont des innovations venant de collaborateurs allant de la direction jusqu'aux collaborateurs les plus simples, les ouvriers, et qui sont pris en compte quelque part dans toute entreprise. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une question de management fondamentale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir autant de réponses que d'entreprises. Sur comment quelque part susciter le progrès au sein de l'assemblée des collaborateurs. Et moi personnellement, j'ai plutôt tendance à croire qu'il faut le faire par l'écoute, même si après on ne suit pas l'écoute. Je pense qu'en opérant l'écoute de façon respectueuse, on est capable d'expliquer ton idée est respectable, mais je ne la retiens pas. Mais la méthodologie, il faudrait rentrer plus dans le détail, je crois qu'il y a autant d'entreprises.
Oui, bonjour Roger. Je reviens sur la question de la distance entre les cadres très hauts dirigeants et puis donc les N-2, la distance du COMEX et en dessous. Vous avez parlé de transparence au niveau du management de votre activité. Et vous avez laissé entendre qu'il n'y a pas toujours la même transparence au niveau au-dessus. Et de façon un peu plus large, je m'interroge sur le fait qu'il n'y aurait-il pas là une des causes de cette inquiétude des cadres, au sens du sentiment de ne pas appartenir fortement à la même entreprise ou une cohésion largement abîmée.
Effectivement, j'ai dit que la transparence n'était pas une vertu qu'on retrouvait, mais on la retrouve nulle part. Hein, quand vous regardez moi, chaque fois que je lis un journal sur un événement que je connais bien, de façon personnelle, je m'aperçois que ce qui est dit est rarement transparent avec la réalité. Je crois que la transparence, c'est pas une des vertus de notre époque. Hein. Et oui, l'absence de transparence, clairement, à mes yeux, est un générateur de démotivation. Pourquoi ? Moi, je m'aperçois, et ça c'est vrai à tous les niveaux de l'entreprise, hein, de l'ouvrier jusqu'au cadre dirigeant en passant par les agents de maîtrise, que finalement les gens sont pleins de bon sens et qui sont beaucoup plus au fait de la réalité que ce qu'on peut imaginer. Et c'est clair que l'absence de transparence dans ces conditions crée aussitôt la défiance. Et qui dit méfiance, dit quelque part dialogue beaucoup plus difficile. De mon point de vue, c'est une des vraies causes de la difficulté du dialogue social en France. C'est la méfiance. Et oui, je pense que l'absence de transparence, quelque part, est une source de démotivation, parce que source de méfiance.
Lorsque vous avez sont les travailleurs. Autrement, je suis frappé de voir qu'on s'intéresse à un sujet à quel point il peut devenir techniquement et juridiquement complexe pour en maîtriser toutes ces dimensions. Est-ce que c'est un élément que vous ressentez, que ça apparaît dans les témoignages que vous avez pu recueillir, parce que c'est très... Quand on est en responsabilité sur un sujet, que ce soit une organisation de travail ou un processus de production, on se sent jamais aussi bien quand on a l'impression de comprendre, enfin, quand on comprend, pour le faire évoluer. J'ai le sentiment que c'est de plus en plus compliqué de comprendre les processus et donc d'agir dessus.
C'est un sentiment que je partage largement. Aujourd'hui, on vit dans un contexte réglementaire et pas seulement juridique, mais tout ce qui est règlement, qui est de plus en plus complexe, et on voit que chaque fois qu'il y a un événement quelque part, on rajoute encore la complexité en faisant un nouveau règlement. Et quelque part, on arrive à des situations qui deviennent quasiment incompréhensibles pour même pour des experts. Enfin, il suffit de regarder les textes de loi qui se surajoutent aux textes de loi. Les droits sociaux, en est à mon avis un excellent exemple, pour comprendre que finalement on ne comprend plus rien du tout à la situation. Enfin, c'est un sujet où même les experts se perdent. Et globalement, c'est vrai que cette complexité qui se surajoute à la complexité organisationnelle des entreprises et aux tâches de reporting dont on parlait tout à l'heure, qui sont elles aussi pas tout à fait simples, et où chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on a tendance à rajouter une case à remplir sur un imprimé. Globalement, ça fait des situations extrêmement complexes où, comme cela a été dit tout à l'heure, on passe plus beaucoup de temps à faire réellement ce qui est le travail. Donc je vous rejoins complètement. Cela étant, c'est le monde dans lequel nous vivons, et donc on a un peu une obligation de réalité. C'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens de faire face à cette complexité croissante. C'est à mon avis, on se pose la question, nous, aujourd'hui, dans notre domaine, où on fait des projets de plus en plus complexes à mener, parce que de plus en plus grands, de plus en plus compliqués, et un des enjeux majeurs, c'est de trouver des formes organisationnelles qui permettent de résoudre cette complexité, qui est un fait incontournable. Et moi, personnellement, j'ai tendance à penser que... j'ai assez confiance en l'homme, qui est, à mon avis, un des éléments clés de la solution à cette complexité. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions pour résoudre la complexité en permettant à des gens de compétences différentes, de tempéraments différents, de travailler ensemble et de façon extrêmement constructive. C'est pas en créant des systèmes impossibles à comprendre aussi, parce qu'on ne fait pas rajouter encore la complexité.
Oui, je voulais réagir à cette question puisque ça croise une discussion que j'avais la semaine dernière avec un copain, Philippe, qui est spécialiste de modélisation de systèmes complexes. Et donc lui, il est dans la fabrication, effectivement, d'outils d'ingénierie qui permettent de faire de la modélisation de systèmes complexes. Et puis, j'ai un petit peu titillé là-dessus en disant, et au bout du bout, lorsque tu auras trouvé le bon modèle, est-ce que tu penses que tu auras fini par trouver la solution finalement à cette complexité? Et je n'ai pas dire non, je ne pense pas. Et là, je comprends complètement ce qu'il y a d'être. C'est-à-dire qu'on avait résumé ça dans une formule assez synthétique que j'utilise lorsque j'interviens dans le domaine de l'enseignement, l'école d'ingénieur ou l'école de management, surtout pour ceux qui sont en dernière année, là, qui vont être diplômés et puis rentrer dans l'entreprise, en leur disant n'oubliez pas une chose, multi, pluri-co. Alors, le multi, le monde complexe est devenu de plus en plus multi. C'est-à-dire qu'il est particulièrement dimensionnel. Et justement, on a besoin de pluridisciplinarité, on a besoin de pluralité. Donc je crois beaucoup effectivement à cette. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la confrontation. Donc de toute façon, ça commence aussi avec la co-construction. Ça relève tout à fait de la même logique. Donc on peut imaginer les meilleurs instruments, les meilleurs. Vont permettre ou essayer en tous les cas de réduire la complexité, on ne remplacera jamais cette confrontation qui permet de faire émerger non seulement des solutions, mais en
traduit la, ce qui a causé la disparition des emplois précaires entre guillemets et intérim quand ça doit être le chantier, quand ça doit être terminé dans mon entreprise, ce n'est pas la fusion, c'est la baisse, la contraction de l'activité, contraction forte, puisque l'activité au niveau national baisse de 30%. Et ça, quelque part, vous n'y pouvez rien. Et c'est vrai que quelque part c'est cruel hein, d'interrompre les contrats qui sont précaires. Je pense que c'était nécessaire à la survie du reste d'entreprise. Et d'ailleurs, depuis, comme les choses vont un peu mieux, on a recréé des postes pour les gens qui nous avaient quittés. Donc quelque part, j'ai tendance à dire qu'on a joué notre rôle, même si ce n'est pas un rôle facile. Je reconnais que la précarité est quelque chose d'excessivement difficile à vivre, mais qui est quelque part un des outils nécessaires si on a envie de poursuivre nos entreprises dans des contextes d'activité extrêmement fluctuant. Oui, c'est dur, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Et croyez-moi, je ne cours pas après. J'aurais préféré transformer ces contrats en contrats définitifs. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand tout va bien. Et là, ça fait mal.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore prendre un dernier round de trois questions. D'ailleurs, il y avait des voix féminines dans la salle. Les gens ont dit c'est parfait. Ouais, c'est très sympathique. Et puis après, on s'acheminera, je pense, à la conclusion.
Effectivement, vous avez cité vos valeurs, hein. Je crois que c'est très important pour notre motivation. Et moi, ce qui me frappe, c'est que l'ensemble d'entreprises qui travaillent depuis 4 ans de l'université, qualifient leurs valeurs. Et je trouve que c'est en train d'être une grande frustration quand vous voyez que les choses ne bougent pas tellement. Les valeurs qui sont affichées, innovation, ouverture, responsabilité, qualité. Dans les faits, on est loin des comptes. Donc je trouve que finalement, c'est encore pire que quand on n'a pas fait cet affichage. Et je me souviens, les amis qui sont démonteurs dans mon entreprise, on a utilisé la charte de la diversité comme ça, on a des solutions de dire pour savoir ce qui se fait, etc. Dans les contrats, on a tout priorité. Bon voilà, donc je voulais savoir si vous avez une diversité à ce genre de.
Alors, savoir si je suis confronté à ce genre de choses, oui, et je crois presque dire en permanence. C'est pour ça qu'une de mes devises, c'est moins mais mieux. Parce que je pense qu'il vaut mieux en faire un peu moins, mais faire bien ce qu'on a dit qu'on allait faire. Cela étant, comme vous l'avez dit, hein, je trouve que globalement les choses bougent, et même si elles ne bougent pas aussi vite qu'on le souhaite, le fait de se donner des objectifs un peu ambitieux, et encore une fois, même si on n'arrive pas complètement à les tenir, ça permet d'aller de l'avant. Et puis, globalement, ben, moi j'ai quand même le sentiment que nos sociétés avancent dans le sens de diversité, dans le sens de. C'est surtout le sujet de l'identité qui me trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser qu'on peut aller vers un peu une rupture à ce niveau-là, au niveau des conditions d'emploi.
Donc, demain, je voudrais être sur l'emploi du chef.
Oui, mais on dit toujours que la responsabilité, c'est pas un objet d'image, c'est un principe d'action. Non, mais c'est important parce que il y a eu tout ce discours en France sur cette fameuse loi NRE et cette obligation de rendre compte. Donc, il faut rendre une image qui est belle. J'avais dit ça au patron d'Accenture. J'avais un peu interpellé à partir de ce que j'avais vu sur le site internet, quand on m'avait invité à la semaine du développement durable. C'était le dernier jour, ils avaient invité. trouver le corps business éthique, donc c'est un catalogue de ce que doit être un manager exemplaire. C'est très bien. Donc on se donne une image extrêmement positive. Et puis j'ai posé une question toute bête juste après, je dis, puisque on profite effectivement de la présence de tous les managers d'Accenture ici autour de ça, vous qui faites du conseil en stratégie, vous êtes-vous posé la question de l'introduction dans votre offre de conseil de cette dimension-là pour les entreprises? Et la réponse était non. Donc j'ai dit, écoutez, c'est contrairement à ce que vous avez dit, puisque le développement durable, c'est comme M. Jourdain, on en fait déjà depuis qu'on est tout petit dans le savoir, nous avons encore certainement une marge de progrès. Alors ça fait beaucoup rire Yann Arthus Bertrand qui était présent à la table ronde avec moi. Mais non, ce que je veux simplement dire, c'est que oui, on est toujours un peu piégé par ces espèces d'effets d'achat. Et je rejoins ce que vient de vous dire. Il vaut mieux effectivement faire moins, mais faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, et puis en même temps être finalement en grande fidélité, quoi, finalement. Parce que la question du sens, la question des valeurs, c'est comme ça qu'il faut les incarner. Et c'est vrai qu'on a encore du chemin à parcourir.
Une éventuelle dernière question.
En termes de compétences, on nous avait posé la question au moment du Grenelle de l'environnement. en disant est-ce qu'il y a des compétences de manager en matière de développement durable. C'était le fameux groupe de travail éducation et développement durable qui devait rendre son rapport à Borloo et qui s'était rendu compte 3 mois avant qu'ils avaient oublié le volet de l'éducation. Ce qui est quand même révélateur, hein. C'est-à-dire que la question de la formation initiale sur des questions qui percutent autant la dimension temporelle, c'était déjà un signe quand même extrêmement fort. Et lorsqu'on avait rencontré le directeur de la chaire des hautes études du développement durable à Paris, qui nous sollicitait là-dessus, on s'est dit beaucoup plus qu'une question de compétence, hein. C'est certainement beaucoup plus une question, effectivement, à la fois de posture. Et là aussi, je reviens finalement à ce que j'ai dit, donc on aura bouclé, j'irai sans doute ce soir, c'est comment créer les conditions, effectivement, pour que collectivement, l'ensemble de ces acteurs puissent d'abord aborder ces questions-là, puissent les confronter. Enfin, je reviens toujours sur ce leitmotiv, on n'aura pas que des managers qui seront tous des héros, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse créer collectivement les conditions à la fois de se vivre ensemble, de se dialoguer ensemble, et des conditions pour que les managers puissent faire leur boulot, enfin, ils ne demandent que ça, dans bonnes conditions, mais quand ils disent dans bonnes conditions, c'est à la fois un travail de qualité, mais c'est un travail qui reste